Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Le Breton. Bonjour David Le Breton.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
David Le Breton, vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes un chercheur singulier qui s'intéresse au corps, à la chair, à la peau, au visage, aux émotions. Vous êtes aussi, David Le Breton, un homme debout, un homme qui marche. Est-ce que cette présentation de vous vous convient ?
Oui, elle est très belle, non ? Je m'y reconnais bien.
J'aimais bien vous voir en homme debout. Vous êtes grand ?
Oui.
Et je pensais à Modigliani aussi, en oui, pensant à l'homme debout l'homme qui, et l'homme
oui,
qui marche.
L'homme qui marche, oui, oui. Oui, puis j'aime bien aussi résister, j'aime bien... Il a fallu dans ma carrière, dans mon histoire de vie, être un homme tenace, qui ne cède pas devant les difficultés. Donc j'aime bien cette idée de l'homme qui marche et debout.
David Le Breton, vous avez choisi comme journée particulière le lundi 6 février 1978, ce jour-là, vous décidiez de partir, enfin vous partiez pour le Brésil.
Partir. Partir. Qu'il est grisant ce mot. On dirait une porte ouverte sur le monde. Il me semble que ce voyage ne sera pas assez long pour assouvir ma joie. Partir. C'est la saveur de la journée qui s'ouvre. C'est l'imprévu de la prochaine escale. C'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose. C'est la curiosité de confronter ses rêves avec le monde.
Où allez-vous ?
Où allez-vous ?
Où allez-vous ?
Où allez-vous ? Demandent les gens à ceux qui s'embarquent. Où ? Est-ce que cela compte ? Le voyage, pour moi, ce n'est pas arriver. C'est partir. Je voudrais être la proue du navire que soufflette le vent et mouille les embruns.
Lyrique comme début d'émission, David Le Breton, c'est un extrait de Partir de Dorgelès.
Oui.
Je me disais que ça convenait bien à cet élan dans lequel vous étiez pris en février 1978 en décidant d'aller au Brésil, partir, l'ailleurs.
Oui. C'est vrai, mais il n'y avait pas cette tonalité heureuse qu'il y a dans ce beau texte de Roland Dorgelès. Je crois que j'ai trouvé plus tard le bonheur du voyage. À l'époque, c'était vraiment une rupture, c'était même une fracture, c'était un désir d'ailleurs éperdu, avec le sentiment que plus jamais je ne rentrerai en France. Je n'avais pas de conflit majeur, hein. Mes parents étaient un couple qui est extrêmement présent auprès de ses enfants, aimant, donc j'ai pas connu comme beaucoup de jeunes dont plus tard, je découvrirai l'histoire en travaillant sur les conduites à risque, sur le mal de vivre. Je n'ai pas du tout connu donc de problèmes affectifs, de traumatismes d'enfance ou autre. Mais malgré tout, j'ai toujours été, déjà à l'époque, un gamin un peu perdu dans un monde que j'avais du mal à reconnaître. Un peu comme un anthropologue sur Mars, déjà, même quand j'étais tout petit. Donc tout me surprenait. Et puis j'étais d'une timidité terrible. Je regardais le monde à distance. Et progressivement, donc au fil du temps, le mal de vivre m'a vraiment imprégné. Et donc, quand j'étais étudiant, j'étais aussi pas mal en porte-à-faux. J'arrivais d'un milieu ouvrier, j'arrivais du Mans, dans une université à Tours, où j'avais du mal à me reconnaître dans beaucoup de mes collègues qui avaient des goûts différents, enfin, qui fonctionnaient dans un monde qui me paraissait totalement différent du mien. D'autant plus que je travaillais énormément pour pouvoir payer mes études. Donc, moi, ça n'a pas trop arrangé mon mal de vivre et mon sentiment que je n'avais ma place finalement nulle part.
Mais vous aviez quel âge en 1978, David Le Breton?
24 ans, je crois. 22. J'ai toujours été perdu avec l'âge. Je suis pas un homme.
Autour de 20 ans.
J'ai toujours obligé de calculer mon âge. Et d'ailleurs, j'aime pas trop qu'on me le demande parce que. Voilà, j'avais autour d'une vingtaine, mais à mon avis un tout petit peu plus, peut-être 22, 23 dans ces eaux-là. Et à ce moment-là, donc le mal de vivre était trop intense, que j'ai eu vraiment le désir de partir, de ne plus revenir. Et pourtant, on aurait pu dire de loin, tout allait bien, parce que j'étais en thèse avec Jean Duvigneau, qui était un professeur formidable, qui nous apprenait énormément de choses, qui me faisait aussi beaucoup rêver. Mais j'avais atteint mon point limite, mon point de fracture. Et tout d'un coup, j'ai éprouvé la nécessité de partir.
Mais pourquoi le Brésil, David Le Breton? Pourquoi partir au Brésil?
Alors, il y a différentes choses. D'abord, la première, c'est quand même un article que j'avais lu dans Ouest France. Je devais avoir peut-être 8 ans par là. Bon, Ouest France, un très très bon journal régional que j'ai toujours autant de bonheur à lire aujourd'hui quand je suis dans l'Ouest. Et le journaliste avait écrit un article sur l'Amazonie. Et au fil de son texte, il développait l'idée qu'il y avait quelque part une population, des populations amérindiennes que nul ne connaissait. Alors, ça m'a fait incroyablement rêvé de me dire peut-être on peut recommencer sa vie là, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut entrer dans une autre dimension du
recommencer,
monde.
Renaître.
Voilà, renaître. Et donc j'avais ce fantasme de l'Amazonie comme un lieu où disparaître. Et en même temps, dans les années 70, évidemment, on est arrivé dans l'une des périodes les plus tragiques de l'histoire pour l'Amérique latine, ça a été l'émergence des dictatures au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Et donc le Brésil était à l'époque encore en pleine dictature, et mon fantasme était très rimbaldien, c'était non pas transformer le monde à la manière de Marx, mais plutôt changer la vie.
Et donc, la vie est ailleurs.
La vie est ailleurs, voilà, il faut donc essayer de se battre contre des hommes qui incarnaient le mal, vraiment à mes yeux à l'époque.
Ça veut dire que vous vouliez vous engager dans la guérilla brésilienne?
Oui, voilà, c'était mon fantasme très adolescent, bien entendu, oui. Mais partagé en même temps avec... Il y avait ce désir de disparaître, ce désir de donner un sens fort à ma vie en combattant pour une juste cause.
Oui. Pardon, excusez-moi, mais vous pensiez que vous alliez prendre les armes ?
J'avais quelque chose comme ça dans la tête, oui. Mais en arrivant à São Paulo et puis ensuite à Rio, très vite j'ai rencontré des jeunes de mon âge qui avaient été incarcérés, qui avaient vécu la torture. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de mon insignifiance. C'était encore un rappel finalement de tout ce à quoi j'avais espéré échapper en quittant Tours. Je me retrouvais dans ma dérision de gamin paumé. Et à ce moment-là, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait tout le tour du Brésil à pied, en stop, puis en prenant le bateau, en arrivant à Belém pour remonter l'Amazonie.
On va y revenir, oui, si vous voulez bien. On va y revenir, on va y aller tranquillement, on va voyager avec vous, on va faire le voyage à nouveau avec vous, traverser le Brésil pour arriver en Amazonie. Mmh. En 1978, quand vous êtes parti au Brésil, David Le Breton, les Rolling Stones chantaient Miss You.
I've been hanging on the phone, I've been slipping all along. your part, singing after dark, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy?
Le 6 février 1978, c'est donc la journée particulière de l'anthropologue David Le Breton. Ce jour-là, vous partiez pour le Brésil. À l'époque, le Brésil était une dictature. Vous vouliez vous engager, David Le Breton, mais vous avez très vite mesuré votre impuissance à vous engager dans la lutte politique. Alors l'appel de l'Amazonie vous a repris. Vous nous l'avez dit, vous êtes parti en stop avec votre sac à dos. Toujours avec le même désir de vous perdre, c'était encore ça qui menait vos pas?
Ah oui, c'est vraiment quand j'ai écrit plus tard la Disparaître de soi, c'était quasiment une autobiographie déguisée avec le recul du temps, mais évidemment tout en maintenant une approche strictement anthropologique où je m'efface. Mais il y avait ce désir de disparaître, de ne plus être là, je ne me supportais pas, j'aurais voulu être tout le monde sauf moi d'une certaine manière, mais j'étais quand même, j'écrivais tous les jours, hein. C'est pas anodin. Parce que, et j'écrivais à l'époque ce que j'appelais le livre du crier.
C'est-à-dire?
Crier, c'est un jeu de mots, donc entre écrire et crier. Tous les jours, j'écrivais quelques lignes ou quelques paragraphes en fragmentant la langue et en essayant de faire crier la langue, entre guillemets, comme j'avais tellement aimé au cinéma la manière dont Antonioni, par exemple, faisait crier la caméra tout en restant sans briser le fil de la narration. J'essayais de construire quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui soit lisible, mais qui brise quand même le langage. Un peu aussi, j'aimais énormément à l'époque Francis Bacon, voilà, ces hommes qui étaient plutôt dans la fracture, dans la cassure. Et je cite souvent Elias Canetti qui dit « Au bord de l'abîme, il s'agrippait à ses crayons ».
C'est ce que vous faisiez.
Quand j'ai lu cette phrase de Canetti, je me suis dit « Mais c'est incroyable, parce que c'est exactement mon histoire à cette époque-là ».
Alors vous citez une autre phrase de Rilke, « J'ai fait quelque chose contre la peur, je suis resté assis toute la nuit et j'ai écrit ». Ça aussi, ça vous ressemblait,
alors,
David Le Breton.
À la fois, il y avait l'écriture, mais aussi au départ, il y a eu le départ quand même, la volonté de partir dans une espèce d'urgence aussi. Quand j'ai décidé de partir, à l'époque, il n'y avait pas de vol direct, ou alors il coûtait extrêmement cher et je n'avais absolument aucun moyen. Je ne suis pas parti avec beaucoup d'argent, j'avais très très peu d'argent. Et donc, mon voyage a duré 3 jours. Avec des escales aux Bahamas, à Miami, en Bolivie. Et l'une des images qui me reste et qui continue encore à me hanter aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'au départ, à Luxembourg, on était une poignée de jeunes, on avait le même âge, je crois. On se retrouvait d'une escale à l'autre, et notamment à Miami, je me rappelle, on était sur une cinquantaine de mètres, à 3-4 mètres les uns des autres, personne n'osant se parler. Et plus tard, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais pourquoi personne n'a osé interpeller un autre. Puis après, évidemment, nos distances à Miami, j'imagine que les uns partaient sur différentes destinations, donc je me suis retrouvé au Brésil tout seul. Mais c'était pas du tout une destination courante, évidemment, l'Amérique latine à cette époque-là, tout le monde la fuyait comme la peste. Et je ne sais pas pourquoi. Donc nous étions une poignée de jeunes
en rupture, sans aucun doute.
À mon avis, en déroute. Oui, parce qu'on n'avait pas l'air très heureux les uns à côté, avec nos sacs à dos, nos grands sacs à dos de l'époque.
Les uns à côté des autres. Et donc vous décidez de partir vers cette Amazonie.
Oui.
30 heures de voyage en bus, c'est ça pour...
Non, ça a été en différentes étapes. Non, il m'a fallu quand même des semaines avant d'arriver. J'ai fait tout le tour du littoral.
Vous avez remonté, vous avez suivi la côte comme ça.
Fortaleza, oui, Salvador, Fortaleza, Recife, oui, voilà. Puis San Luis, et puis finalement arrivé à Belém avec ses bateaux, ses merveilleux bateaux d'ailleurs, dont Werner Herzog a tiré un si beau film dans Fitzcarraldo, ses caboteurs. Voilà, et là, ça voulait dire une semaine, oui, enfin, plusieurs jours, parce que je me suis arrêté à Santarém, je ne sais plus pourquoi, sans doute qu'il fallait que je change de bateau, mais là j'ai plus tout à fait ça en tête. Et donc une semaine de bateau en Amazonie, non pas dans le romantisme, mais dans ces bateaux qui étaient saturés d'animaux, avec des poules, des cochons, etc. Et puis des hamacs qui se touchaient en permanence, des nuées de moustiques.
Tout sauf le voyage romantique et tout sauf cette Amazonie rêvée.
Vous arrivez là après avoir déroulé un ruban de poussière ocre de 1000 km et on vous dit, vous êtes en Amazonie. Mais où l'Amazonie a-t-elle commencé? Comment l'atteindre? Où est son cœur? Où est son centre? Elle fuit. Et vous restez là avec votre Amazonie rêvée, à vous dire que l'Amazonie réelle est si grande que vous ne la verrez jamais.
Amazonie réelle, Amazonie rêvée, vous étiez en plein dedans, David Le Breton. À Belém, vous êtes là où l'Amazonie rencontre l'océan Atlantique, ouais. Mais vous ne rentrez pas dans le paysage, vous n'y êtes pas.
Non, je continue à me sentir en porte-à-faux, à me demander ce que je fais là. Mon rêve d'Amazonie était vraiment un rêve de disparition. Hein, donc c'était quelque chose comme à la fois un grand vide. Je me disais pas que là j'allais trouver enfin un sens à ma vie. J'avais l'impression à ce moment-là que j'en n'en trouverais jamais. Et je me revois d'ailleurs sur le bateau, sur le bastingage de ce bateau,
de ces caboteurs, à la Conrad.
Exactement. Et je voyais au loin l'immensité de la forêt. Il y avait aussi l'Amazone qui est immense à certains endroits. J'étais appuyé sur le bastingage et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Si j'étais à Tours, je serais en train de me lamenter de n'être pas parti. Et je suis là maintenant dans mon rêve d'Amazonie. Et je n'ai qu'une envie finalement, c'est de n'être nulle part, quoi, finalement. Peut-être de rentrer à Tours me paraissait le moins pire, mais c'était en même temps une déroute absolue. Mais je me disais que voilà, c'était là où je pouvais éventuellement me reconstruire.
Mais vous n'avez pas été pris par les paysages, par les visages des Indiens, par ces bateaux, par la couleur de l'eau.
Mais si, mais
moi qui n'ai jamais vu l'Amazone, quand même, rien ne vous tenait. Le paysage n'arrivait pas à vous tenir. Votre malaise était plus grand.
J'étais dans l'ambivalence. Oui, il y a un moment, je crois, où la beauté du monde nous indiffère d'une certaine manière. Donc à la fois, j'étais dans mon amour du Brésil, dans mon amour de la musique brésilienne, dans mon amour de l'Amazonie. J'étais dans le romantisme, dans le rêve. Mais ça ne suffisait pas pour me réconcilier avec un monde qui me semblait en permanence dérouler. À mes efforts. Et puis je voyais aussi quand même une Amazonie un peu brisée, parce que là où le bateau s'arrêtait, je voyais plutôt des Amérindiens qui étaient devenus des mendiants, les filles des prostituées. Je me rendais compte aussi que c'était pas le monde de l'innocence, entre guillemets, ou des sociétés traditionnelles, bien protégées. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit la tragédie du Brésil, de l'Amazonie et du Brésil d'ailleurs, on se dit que j'étais pourtant encore dans ces années 70, dans un univers relativement privilégié, mais déjà il y avait quand même une grande déperdition de ces populations amérindiennes.
Oui, c'est ça, vous assistiez déjà au début de l'ethnocide,
voilà,
c'est ça que
oui.
Vous avez
oui,
vu.
Oui, que d'ailleurs
aussi.
Dénonçait Robert Jolin à l'époque, dans les années 60-70.
Jacques Meunier,
oui, voilà, tout à fait. Je voyais ça de mes propres yeux avec une immense amertume que ne m'avaient pas donné mes études, quoi, ou avec Jean Duvigneau, je rêvais plus. Mais Jean Duvigneau avait quand même invité Robert Jolin, Georges Balandier, etc. Donc des hommes qui nous parlaient aussi de cette détérioration des sociétés humaines. Mais le voir de ses propres yeux, évidemment, c'est différent de l'entendre, même de la bouche de grands aînés comme Jolin ou Balandier, par exemple.
Mais pas de rencontre non plus, David Le Breton, qui aurait pu vous ouvrir à la vie?
J'ai toujours été extrêmement solitaire, extrêmement silencieux. Je suis pas quelqu'un qui va vraiment vers les autres. Peut-être d'ailleurs que ce qui m'a sauvé, c'est justement d'être enseignant, parce que je crois que sinon je n'aurais jamais éprouvé la nécessité intérieure de prendre la parole. Peut-être que l'écriture m'aurait suffi, je ne sais pas. Et puis un concours de circonstances a fait que un certain nombre des enseignants qui me connaissaient, à un moment donné, ont ouvert un enseignement au Mans, ma ville natale, et ils m'ont dit « David, tu fais des études de sociologie, est-ce que tu as envie de faire des cours de sociologie au Mans ?» J'en ne revenais pas qu'on me fasse une proposition comme ça, je suis tombé des nues. Et je me rappelle en plus que le plus étonnant, c'est que quand on me l'a proposé, j'étais en train de décharger un camion, parce que je travaillais beaucoup comme intérimaire pour gagner 3 sous avant
pour
de soutenir
études,
ma thèse. Voilà, donc je suis allé là-bas. Mais c'est
reste... vrai que vous avez vomi avant de faire votre premier cours d'angoisse. C'est ce
que... vous connaissez bien votre dossier.
J'ai lu ça quelque part que et j'ai... ça m'étonnait pas de vous en même temps, David Le Breton. Mais vous en étiez malade d'avoir à prendre la parole devant des élèves.
J'avais dormi chez mes parents et puis je me revois marchant dans cette université du Mans et je me disais, c'est l'épreuve de vérité. Est-ce que je vais être capable de parler pendant 2 heures à une poignée d'étudiants? Et en cours de route, effectivement, j'ai vomi et puis je suis arrivé devant les étudiants. Je me suis lancé, mais vraiment comme on se lance dans le vide. Et puis ça s'est merveilleusement bien passé. Les étudiants avaient l'air passionnés par ce que j'écris, par ce que je disais. Et puis c'était l'ouverture au monde d'une certaine manière. C'était quasiment un moment initiatique d'ailleurs.
Alors moi, je vais revenir en Amazonie.
Oui.
Je vais revenir au Brésil.
Oui.
Vous étiez complètement encombré de vous-même.
Oui.
Mmh. Complètement pris dans ce corps et dans votre tête qui vous empêchait d'être là où vous étiez. C'est bien ça ce qui se passait.
Oui, absolument. Oui.
Je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
David Le Breton, bien sûr, vous avez reconnu...
Michel Foucault.
C'est la voix de Michel Foucault, donc c'est un extrait de la conférence intitulée « Le corps utopique » qui a eu lieu en 1966. Et en préparant cette émission, on trouvait dans l'équipe que ça résonnait bien avec ce que vous tentiez de nous dire sur ce voyage, sur votre rapport au corps, à l'enfermement.
Oui, enfin, je pense en tous les cas que ça renvoie bien au sentiment que j'éprouvais envers mon corps dans ces années-là, où j'étais plutôt un jeune homme, mal dans sa peau, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait avec Jean Duvigneau une thèse sur l'anthropologie du corps, à une époque où ce n'était absolument pas dans l'air du temps, où ça paraissait complètement insolite, où il fallait un homme justement dans l'envergure et de l'originalité de Jean Duvigneau pour accepter qu'un thésard fasse un travail sur ce sujet.
Donc Mon professeur de sociologie.
Sociologie. En essayant de construire cette anthropologie du corps, d'une certaine manière, j'étais dans une recherche de réconciliation avec moi, avec mon, enfin, ce rapport, cette étrangeté finalement d'être soi que décrit si merveilleusement Michel Foucault. Mais je crois cependant qu'au fil des années, je me suis réconcilié au point d'oublier justement, pas d'oublier entre guillemets, mais de faire de mon corps le centre de gravité de mon existence.
Vous cohabitez mieux.
En toute évidence. Oui, voilà. Et évidemment, il y a toujours le moment où on entre dans le vieillissement et où on se sent, on recommence à nouveau à se sentir différent de soi et à nouveau, donc, mais là, c'est quasiment universel. Le corps recommence à nous poser le visage recommence à nous poser des problèmes. On a de plus en plus de mal à se reconnaître dans son visage et c'est ce que décrit aussi d'ailleurs merveilleusement Michel Foucault et très douloureusement aussi, mais c'est l'aventure
de la vie,
voilà, de chacun d'entre nous. Oui.
Tristesse non tem fim, felicidade sim. Tristesse
tristeza que un javento separar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata. Se acabar na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois te leva oscila e cai como uma lágrima de amor.
A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. E é por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela.
Vinicius de Moraes, c'est ça, hein?
Oui.
Baisse de Breton. À Félicidade, dans sa chanson, il y a un moment, ça dit que la joie est une chose folle. Félicidade es una cosa loca. Ça, ça vous va bien aussi.
Oui, c'est vrai. Non, mais il ne faut pas non plus... La joie est vraiment un moment essentiel de la vie. Et d'ailleurs, sur la marche, dans mes voyages, je suis redevenu un homme heureux, joyeux et toujours dans l'émerveillement de découvrir de nouveaux pays, de nouveaux paysages, de nouveaux lieux. Voilà, bon, peut-être faut-il se raconter des histoires pour justement que le bonheur nous colle à la peau. Mais...
peut-être. Pendant le disque, vous me disiez comment penser que cette musique a été produite par le même pays, oui. Le Brésil, avec à sa tête aujourd'hui Bolsonaro. Comment c'est possible, oui, que ce soit, oui, ce même pays qui produise à la fois cette musique et Bolsonaro?
Oui, voilà. Quand on pense à Tom Jobim, quand on pense à João Gilberto, à Chico Buarque ou à Vinicius de Moraes, on n'arrive pas à comprendre que le Brésil soit devenu cet immense chaos, cette immense violence, avec un président complètement fou qui mène son pays à la perte, avec
des Indiens décimés,
avec aujourd'hui plus d'une centaine de mille morts, avec l'Amazonie qui brûle et avec des Indiens décimés, avec donc un territoire aussi, évidemment, un territoire amérindien qui ne cesse de se rétrécir, et un homme total d'une indifférence absolument inouïe, et une souffrance terrible du peuple brésilien. Mais en même temps, je n'arrive pas à comprendre que le peuple brésilien ait voté, parce que le Brésil est une démocratie, et ils ont voté pour un type qui en appelait à la dictature.
Je sais, qui était nostalgique de cette dictature que vous vouliez combattre en 78.
Voilà, je n'ai jamais compris ça. D'autant plus qu'il y avait une haine contre Lula, qui a quand même redressé le pays de manière absolument vertigineuse. Je l'ai vécu, parce que quasiment tous les ans, je vais une fois ou deux au Brésil, et j'ai vu comment le Brésil était redevenu un très très grand pays qui suscitait l'émerveillement du monde entier. Et il a suffi de quelques années, l'éviction de la présidente Dilma Rousseff, qui n'avait absolument rien à se reprocher au plan juridique, remplacé par un type qui avait des tas de casseroles juridiques. Et là, c'était le commencement de la fin pour moi, pour le Brésil. Et puis après, l'élection de Bolsonaro. Et voilà. On en arrive à la situation d'aujourd'hui.
Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée, c'est votre journée particulière, David Le Breton. Donc, Vous partez en... Je reviens pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant. En février 78, vous partez au Brésil. Vous revenez, vous rebroussez chemin 6 mois plus tard. Vous revenez en France. Vous ne vous êtes pas perdu en Amazonie. Vous n'avez pas rencontré les Indiens de vos rêves d'enfant. Vos longues errances dans les villes brésiliennes ne vous ont pas aidé à répondre avec, à votre questionnement, à votre mal-être. Mais quand même, vous vous êtes retrouvé et à votre tour, vous n'aviez plus envie ni de disparaître, mais vous aviez envie de vivre. Et vous avez enfin soutenu votre thèse de sociologie avec ce grand professeur dont vous nous parlez depuis le début de l'émission, Jean Duvigneau.
Vous créez les conditions de l'épanouissement de soi. Et après tout, pourquoi pas parler de ce mot ce terme un peu lourd de pédagogie. Ben, rappelons que tout de même...
Vous êtes quand même un pédagogue.
Justement, c'est là le problème. Rousseau a consacré une partie de sa vie à faire de la pédagogie dans les mille. Vous savez que les œuvres de Tolstoï de pédagogie sont plus importantes que Guerre et Paix. Et j'ai tenté de l'être, de le faire en Tunisie avec mes étudiants tunisiens, de le faire avec d'autres avec l'étudiant français, avec d'autres. Il ne s'agit pas ici d'apporter quelque chose, de transmettre un savoir. Oh là là, nous ne sommes plus à cette période assez stupide des années 70 où on pensait qu'on transmettait. Non, je pense que le seul rôle qu'on peut avoir, c'est de catalyseur. C'est-à-dire de, pour ainsi dire, forcer les gens à être ce qu'ils peuvent être. Et leur donner l'être du possible, leur donner la possibilité d'exister. On ne transmet pas de savoir. Le savoir, il l'acquiert tout seul. La science, on l'acquiert tout seul. Mais la capacité d'être soi-même, ça c'est peut-être la seule chose que la pédagogie puisse vraiment enseigner.
David Le Breton, vous avez eu de la chance de tomber sur ce professeur de sociologie parce que c'était exactement l'homme qu'il vous fallait. Il vous a permis d'exister, il vous a permis de vous déployer et d'être qui vous étiez. Ce jeune homme sensible qui allait s'intéresser à l'anthropologie du corps.
Oui, et de surcroît, Jean Duvigneau était écrivain, était un homme de théâtre, était un critique, a écrit plusieurs scénarios pour le cinéma. C'était une manière de montrer que la sociologie, l'anthropologie était une ouverture au monde et absolument pas une fermeture avec un certain nombre de disciples comme feront bien d'autres sociologues qui continuent à régner encore aujourd'hui. Donc Duvigneau nous apprenait quelque part la liberté de penser. Je me suis toujours senti auprès de lui, comme après avec Georges Balandier, et comme j'ai essayé de l'être avec les étudiants, être un compagnon de route. Nous sommes ensemble, nous cheminons, nous essayons de comprendre le monde et de converser ensemble. Pareil, je me sens aussi compagnon de route des grands textes que j'ai, de tous les romans, de tous les livres, de tous les films aussi que j'ai lus. Et je crois que Duvigneau nous enseignait ça aussi. C'est un homme qui citait énormément les écrivains, qui citait aussi souvent les cinéastes. Et je sais que je surprends souvent même un certain nombre de mes lecteurs qui me disent « Mais vous citez énormément des écrivains. » Les sociologues, généralement, font pas trop ça, etc. Mais je revendique absolument le cinéma, la littérature m'ont aussi appris à penser le monde tout autant que les sociologues.
Alors, David Le Breton, je comprends bien pourquoi vous avez choisi cette journée particulière et ce voyage au Brésil. Je comprends en quoi ça a été fondateur pour vous, parce que la plupart des sujets sur lesquels vous allez justement travailler plus tard en tant qu'anthropologue et sur lesquels vous avez écrit, la marche, le silence, la voix, les conduites à risque, la tentation de la disparition de soi, la douceur, tout ça, c'est des choses que vous avez éprouvées pendant ce voyage, justement.
Oui, j'ai l'impression effectivement que c'est une sorte de, comment dire, de boîte à outils, une sorte de matrice en tous les cas. Au début, une matrice extrêmement douloureuse, et c'est sans doute pas pour rien que dans tous mes livres, dans tout mon travail, il y a ce sentiment, il y a un moment où la renaissance entre guillemets intervient, la capacité de se remettre au monde. Quand j'ai écrit sur les conduites à risque, par exemple, je n'ai jamais eu une vision pessimiste entre guillemets des conduites à risque. Je les ai toujours vues comme un moment dont on sort un jour ou l'autre.
Parce que vous les connaissez bien,
oui, parce
vous-même,
que je les avais vécues de l'intérieur. Mais après, évidemment, un sociologue, c'est un homme ou une femme qui fait du terrain. Donc j'ai rencontré énormément de jeunes et je sais bien qu'on peut à un moment ou un autre se remettre au monde. C'est pareil dans mon travail sur le visage où j'ai parlé aussi non seulement du visage comme bien-être, comme reconnaissance avec soi, mais en même temps de la difficulté parfois de se reconnaître, mais aussi la question de la défiguration, la question comment se reconstruire un visage finalement quand on a perdu son visage. Quand j'ai écrit sur la voix, j'ai écrit aussi sur la laryngectomie, c'est-à-dire comment peut-on vivre quand on a perdu sa voix, comment se reconstruire. Donc dans tous mes livres, et dans mon premier roman d'ailleurs, La danse amazonienne, mon premier livre publié en 82 si ma mémoire est bonne, il y avait aussi cette traversée de la nuit pour une renaissance. Donc dans tous mes livres, je n'ai jamais, et dans La douleur chronique, c'est encore plus spectaculaire, puisque là, je parle d'hommes ou de femmes qui sont dans une immense souffrance pendant parfois des décennies. Mais j'ai essayé, dans le livre aussi, de montrer qu'au fil du temps, un certain nombre trouvaient des solutions, réussissaient à se réconcilier avec leur corps, à apaiser leur douleur pour pouvoir se reconstruire. Donc profondément, en effet,
la Renaissance,
c'est une matrice. Et la Renaissance initiatique sont vraiment des thèmes centraux dans mon travail.
C'est pour ça qu'on dit de vous, David Le Breton, que vous êtes un anthropologue qui interroge la condition humaine. C'est parce que vous êtes au cœur de la condition humaine, justement.
Oui, voilà. Je n'oublie pas l'étymologie. Anthropos, c'est la condition de l'homme. Donc effectivement, j'ai interrogé le visage, interroger le silence, la voix, le corps, le sourire pour mon prochain livre bientôt. J'essaie de comprendre ce que la condition humaine fait du visage, de la voix, du corps, du sourire, du rire, etc.
Et vous avez beaucoup écrit pendant votre voyage au Brésil, et comme vous le disiez, si l'écriture vous a permis de vous sauver, de vous tenir, vous avez aussi la marche qui vous a sauvé en quelque sorte et qui vous a permis d'avoir un centre de gravité. Oui. Au Brésil, vous avez beaucoup marché, beaucoup erré dans les villes que vous traversiez.
Oui.
Et marcher pour vous, c'est ce qui vous a permis de ne pas chuter justement.
J'ai fait venir au micro M. Ledeau, président de la Fédération nationale des syndicats de pédicures médicaux, afin de lui demander de nous parler, vous l'avez sans doute deviné, de nous parler de nos pieds. Il paraît que nous ne savons pas nous en servir. Nous marchons mal, et c'est pour cela que nous avons des cors, des durillons, des œils de perdrix, qui vont nous faire de plus en plus mal pendant les journées chaudes.
Vous avez tout à fait raison. Beaucoup de gens ne savent plus marcher, parce que l'utilisation de transports roulants leur a fait oublier ou négliger la locomotion naturelle. La marche est une fonction comme la respiration. Il faudrait même qu'elles fussent toutes les deux synchronisées. En tout cas, je puis déjà vous dire qu'un bon marcheur ne souffre jamais de cors aux pieds. Les pieds sont des merveilles architecturales que l'on méconnaît et l'on maltraite alors que l'on devrait les admirer et les respecter.
En somme, Monsieur Ledeau, traiter vulgairement quelqu'un de pied, c'est presque lui faire un compliment.
David Le Breton, délicieuse archive qui date de 1950. Vous êtes un marcheur, on le sait, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la marche. Je me demandais si vous faisiez très attention à vos pieds.
Non, j'avoue que pour moi, il y a une espèce d'évidence de marcher qui fait que quand j'entends parfois des experts, entre guillemets, nous expliquer comment respirer, comment mettre un pied devant l'autre, je reste un peu, disons, gentiment souriant devant ce genre de leçon.
En écoutant cette archive et en vous lisant, j'ai repensé à ce qu'on me disait quand j'étais reporter. On me disait, on pense avec ses pieds.
Oui.
Vous pensez avec vos pieds, David Le Breton ?
Moi, en ce qui me concerne, marcher, c'est évidemment une jubilation. C'est le fait de se déplacer d'un lieu à l'autre, de parcourir le monde. C'est d'être immergé dans la sensorialité du monde. On est dans la contemplation, on baigne dans des odeurs formidables, on est dans le silence ou dans le chant des oiseaux. Quand on veut toucher un arbre ou quand on veut se baigner, par exemple, comme j'adore le faire, quand on croise un lac, une rivière, on retrouve la plénitude du toucher, quoi, le bonheur de toucher le monde, de l'envelopper de ses mains. Même le goût est présent, quoi. Quand on marche dans les Vosges, il n'y a pas encore bien longtemps, on pouvait cueillir des myrtilles, des fraises sauvages, mais vous marchez dans d'autres régions, vous cueillez d'autres fruits sauvages. Donc la marche est vraiment une sorte de réconciliation avec le corps, où tous nos sens sont mobilisés, mais tous nos membres aussi. Si vous marchez avec des bâtons, vous utilisez vos mains, vous utilisez la force de vos mains pour grimper une petite pente ou pour la descendre. Voilà. Donc c'est pas uniquement les pieds.
Non, 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 bien sûr. Vous avez beaucoup travaillé sur le visage et en préparant cette émission, on a cherché des archives, des belles archives sur le visage.
Oui.
Et on est tombé par hasard sur un poème de Baudelaire que nous ne connaissions pas.
Les promesses d'un visage. J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux, qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique, tes yeux, languissamment, me disent « Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses. Tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bonze, une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée, et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoile, nuit obscure. »
David Le Breton, je vous écoute.
Très beau texte où Baudelaire saisit merveilleusement la sacralité du visage de la personne aimée, le sentiment qu'elle incarne tout le mystère du monde et qu'on n'en aura jamais fait le tour. C'est l'élévation du visage, quoi. Alors que le racisme, justement, vise à piétiner, à détruire, à liquider le visage de la personne. Liquider la singularité du visage. Mais quand on aime, le visage de nos proches, par exemple, est le visage en qui s'incarne tout le mystère du monde. Et, bon, d'ailleurs, un certain nombre d'écrivains ont dit que quand on désire, le désir, même dans l'érotisme, c'est le désir de rejoindre le mystère porté par le visage de l'autre. Et comme si le corps n'était qu'un accessoire pour essayer d'atteindre ce visage de l'autre, qui nous demeure évidemment inatteignable, ce qui fait que le désir ne cesse de se relancer. Et je crois aussi que la fin d'un amour, c'est là le moment où le visage de l'autre se banalise, où il se profane, entre guillemets. Il passe du sacré au registre profane, et à ce moment-là, non, on peut plus, on se regarde en chien de faïence, comme on dit vulgairement.
Et en ce moment, nous, on se regarde comment? Avec nos masques, avec nos masques et sans visage.
C'est vrai, mais en même temps, il faut évidemment rappeler la nécessité
du masque
en termes de prévention. Donc maintenant, je me méfie quand même au regard de l'émergence de ce mouvement anti-masque qui me paraît très douteux politiquement. Cette instrumentalisation qui n'a rien à voir vraiment avec la lutte contre la pandémie. Mais en revanche, c'est vrai que dans la vie quotidienne, nous sommes tous encombrés de nos masques, nous ne nous reconnaissons plus. Et puis en même temps, le masque fait que nos voix ont du mal à passer. On est très souvent obligé en ce moment de répéter ce qu'on a dit. Et j'appréhende le retour à l'université, parce que bientôt il va falloir enseigner devant des étudiants masqués, mais nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous allons devoir être masqués. Donc, pour quelqu'un comme moi qui se donne énormément dans un cours ou dans une conférence et qui suit très attentivement le visage des étudiants, j'avoue que je suis pour l'instant un peu déconcerté et un peu, je me demande ce que va être cette espèce d'épreuve de vérité. Mais.
On n'a pas le choix.
Non.
I see the moon. Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Le 6 février 1978, c'est donc votre journée particulière, David Le Breton. Vous partez au Brésil et c'est juste quelques jours après l'enlèvement du baron Empain. Vous vous en souvenez de ça ?
Un petit peu.
Riche héritier, PDG de Schneider. Ouais. On lui coupera son petit doigt pendant sa séquestration. Ça défraye la chronique en 78.
Oui, mais je me souviens très bien de cette histoire. Mais bon, pour moi, c'était un fait divers. Donc, c'était un peu... pas anodin, mais... Non, au regard d'ailleurs de la souffrance du monde à cette époque-là, ça me paraissait peu de choses qu'au regard de ce qui se passait au Chili, en Argentine, surtout, qui étaient vraiment des pays... incroyablement meurtri.
Oui, ça vous semblait dérisoire.
Oui, voilà, par rapport à l'époque.
Alors j'imagine que la mort de Claude François aussi vous a semblé dérisoire, ou est-ce que vous l'avez appris au Brésil, parce que vous étiez au Brésil quand Claude François est mort?
Je crois que je l'ai appris à mon retour plutôt. Donc aujourd'hui, quand j'entends ou quand je vois Claude François, je suis extrêmement ému, parce que d'abord je sens une présence, une qualité de présence, un enthousiasme, un bonheur de chanter, de danser, voilà, qui me touche énormément. Donc je me dit, j'ai été un peu, pas méprisant, mais en tous les cas totalement indifférent à ce genre de chansons populaires, entre guillemets, de ces années 60-70. Et aujourd'hui, non, je suis toujours à chaque fois ému, et à la limite, je peux très bien m'arrêter pour écouter Joe Dassin, pour écouter Claude François, ou... Non, Claude François, non, c'est quelqu'un dont la disparition, en plus très prématurée, m'a ému, mais un peu plus tard, quoi.
Et alors, est-ce qu'en 1978, est-ce que cette chanson-là, qui parle du Brésil...
Oui.
Vous aimez.
Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could fell in love.
Alors David Le Breton, ému?
Non, pas vraiment. Non, je vous confesse que je n'ai jamais trop aimé les chansons en anglais. Donc, je suis passé complètement à côté des Beatles, des Rolling Stones, qui intéressaient toute ma classe d'âge à l'époque. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais quand j'entends cette chanson, évidemment, je ne peux pas ne pas penser à la Garota de Ipanema, qu'a chanté si merveilleusement João Gilberto, qu'a chanté Tom Jobim, etc. Ce rythme de la bossa nova est tellement beau. Et je vous confesse qu'à chaque fois que je suis sur les plages à Rio, j'ai cette chanson en tête.
Les Garotas de Panema.
Ce qui est une chanson fabuleuse, éternelle, mais très galvaudée, parce que finalement on l'entend maintenant dans les supermarchés, partout. Et là, il y a quelque chose d'une sacralité qui est profanée à mes yeux, quoi. Parce que c'est une chanson qu'on devrait toujours écouter dans l'apaisement, dans l'attention. Et non, mais si elle accompagne la marchandise dans les grands magasins, non. Ça détruit la musique pour moi.
En 1978, en mai exactement, l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine, oui, s'évadait de façon spectaculaire de la prison de la Santé.
9h ce matin, Jacques Mesrine, François Besse, Carmen Riff se promènent dans la cour de la prison. 9h30, Mesrine, qui vient d'être appelé au parloir pour rencontrer son avocate, Maître Giletti, sort quelques minutes après de cet entretien, armé de 3 pistolets et d'un pistolet mitrailleur dérobé à un gardien. Menace les surveillants, s'empare de leurs clés, ouvre les cellules de ses 2 comparses. Ils gagnent tous les 3 le mur d'enceinte de la prison, s'emparent d'une échelle et, à l'aide d'une corde, franchissent le mur. Des policiers chargés de la surveillance ouvrent le feu. Les fuyards ripostent. Rive, qui se trouve encore en haut du mur, est atteint d'une balle en plein cœur. C'est au moment où Carmen Riff, blessé en pleine poitrine, s'écrasait sur le trottoir, que Jacques Mesrine et son comparse obligeaient le conducteur d'une Renault 20 stationnée rue de la Santé à leur laisser le volant.
Ils m'ont dit, tu sors de là-dedans.
Ils vous ont menacé?
Ah bah ça c'est sûr, il y avait chacun un pétard. Mais je savais pas que c'était des gangsters. Ils me disent, sors de là tout de suite. Je me dis, mais t'es complètement chavrac, toi, non? Mais moi je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Ils avaient la casquette et puis ils avaient le... Il paraît que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on pourrait que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait?
Mesrine.
Mesrine, oui, c'est celui-là. Hein. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux.
Le délice de la langue, hein. Chabrak, oui, vous êtes complètement, il était oui. complètement Chabrak.
Oui, mais c'est les voix que j'ai beaucoup aimées dans vos archives, quoi. Même la voix de Jean Duvigneau, ce sont des voix qu'on n'entend plus aujourd'hui, parce qu'il y a une telle uniformisation, un tel formatage de la voix, qu'on est ému finalement, indépendamment du contenu de ce que disent ces gens, quoi. C'est l'intonation de leur voix.
Alors là, vous allez être servi pour l'intonation de la voix, puisqu'il s'agit de Jacques Brel, qui disparaissait bien sûr aussi en 1978. Oui. Vous vous souvenez qu'il avait quitté la scène, il avait arrêté de chanter. Et il disait vouloir s'offrir le temps de se taire. J'ai pensé que c'était pour vous, David Le Breton.
Magnifique.
Mais en réalité, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de rencontrer d'autres gens un petit peu. J'ai envie d'aller plus loin. Mais j'ai envie d'élargir les petits cercles que j'ai dans la tête. Ah, c'est ça. Alors maintenant que j'ai une pile d'anneaux et j'ai envie de les lancer à gauche et à droite, et j'ai envie d'en recevoir d'autres, et j'ai envie de connaître des anneaux que j'ignore, qui sont peut-être carrés, qui sont peut-être dans des métaux inconnus, enfin, j'ai envie de voir, et j'ai envie de... Ce que j'aime ne me suffit plus, j'ai envie d'aimer autre chose, en plus. C'est pas du tout en luxe, hein. C'est pour pousser la machine, pour voir où on a peur et comment on en sort. J'ai envie de m'occuper de mon corps un peu. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de m'occuper de mon corps.
Qu'est-ce qui vous fait rire, David Le Breton?
Oh, bah évidemment, j'ai l'impression, comment dire, d'une fraternité, d'une connivence absolument inouïe. Et je me disais aussi, en l'écoutant, que l'écriture était pour moi toujours, encore aujourd'hui, cet appel d'air, quoi, cette échappée belle. Voilà, ces anneaux, autant d'échappées belles vers des sujets qui me hantent et qui peuvent paraître insolites, comme par exemple d'écrire un livre sur le sourire prochainement, J'imagine que beaucoup de mes collègues vont se dire le sourire, ça va pas très intéressant, quel intérêt sur un plan sociologique, alors que non. Justement, c'est l'un des anneaux de Jacques Brel, c'est tout le mystère du monde qui s'incarne dans un visage, dans un rire, dans un sourire. Et à mon avis, c'est là où l'anthropologue doit chercher aussi ses gisements, ses pépites, et on n'est jamais fini finalement d'en trouver.
On vous lira avec plaisir, David Le Breton. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Tous vos livres, parce que je ne vais pas tous les citer, sont publiés aux éditions Métellier. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard et à la programmation musicale Djoubaka. À la technique aujourd'hui, c'était Michel Bézikian. On se retrouve, nous, dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Passez un bon week-end. Suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.